Et je vais passer la parole à Marie-Françoise Crouzier, qui est la responsable de la mission pour la pédagogie et le numérique, la MIPNES, à la DGECP, au ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Marie-Françoise, si tu veux bien.
Bonjour à tous. Je prends la parole alors qu'il était prévu que Rachel-Marie Pradé-Duval, la chef de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante, introduise notre journée. Elle a un imprévu dernière minute, ce qui fait que c'est moi qui vous accueille sur un sujet extrêmement important, puisque la question de l'analyse des traces fait partie des questions prospectives sur lesquelles il faut avancer aujourd'hui. Donc nous avons la chance d'accueillir des intervenants internationaux qui vont nous parler de ce sujet-là. Et je vais laisser Anne Boyer présenter l'organisation de la journée.
Merci Marie-Françoise. Donc quelques mots complémentaires. Welcome to our colleagues from outside, from France. We are very, very pleased to welcome you here. I want to thank you to accept to come. And I would say that just after the terrible events of the mid-November, all of you wrote me an email saying whatever happens, you will be there in Paris with us today. And I will to thank you especially for that, because your support was very, very important for us. So thank you very much. Je vais continuer en français, je vous rassure, pour tout le monde, y compris pour nos collègues anglophones, en vous présentant une rapide introduction à cette journée et au thème des Learning Analytics qui va être le fil conducteur. Donc juste pour vous donner une première image, bien connue, je pense, avec deux visions de l'enseignement au travers des siècles, et vous pouvez voir un certain nombre d'évolutions entre ces deux images, pas seulement au niveau vestimentaire, mais aussi parce que on est passé de quelques étudiants, une trentaine d'apprenants, à une massification importante. Encore cet amphi n'est pas des plus importants, je pourrais vous montrer des photos où il y en a bien davantage. Des évolutions aussi parce que on peut voir sur la photo de droite que les étudiants sont maintenant connectés, beaucoup d'entre eux, je ne sais pas si c'est visible, ont des téléphones portables, ont des ordinateurs, des tablettes, sont connectés via le Wi-Fi, interagissent via les réseaux sociaux, etc. Alors, des évolutions certes, mais il reste encore quelques constantes, et en particulier sur ces deux images, vous pouvez voir un étudiant assoupi au fond de l'amphi. Et la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi comment peut-on faire pour que tous les étudiants soient motivés, intéressés, participatifs et réussissent dans leurs études. En particulier, comment aider les enseignants à personnaliser leur enseignement lorsqu'on est enseignant face à un amphi très important. Voici une photo prise dans un amphi de Picardie, à l'université Jules Verne à Amiens. On voit des étudiants devant leurs ordinateurs, mais très nombreux, et un enseignant seul au fond de l'amphithéâtre devant un tableau avec un vidéoprojecteur. Comment peut-on aussi faire que les étudiants puissent avoir accès à un apprentissage personnalisé? J'ai mis ici, sur cette slide, un propos de Benjamin Franklin qui dit « Dis-moi et j'oublie, explique-moi et je me souviens, implique-moi et j'apprends ». Et je pense que c'est quelque chose que nous devons garder aussi en mémoire. Enfin, le troisième point, c'est comment les universités peuvent justement aider les étudiants à profiter des ressources mises à leur disposition. Il existe de très nombreuses ressources éducatives, qu'elles soient notamment accessible par le tout nouveau moteur qui a été lancé récemment, supnumérique.gouv.fr. Vous pouvez retrouver les plus de 30 000 ressources éducatives libres fournies notamment par les universités numériques thématiques, mais aussi tous les matériaux pédagogiques qui sont offerts par les universités et tous les établissements d'enseignement supérieur et bien au-delà. Comment faire que nos étudiants puissent les utiliser à bon escient et à profit? Et bien sûr, comment rendre les étudiants conscients des efforts qu'ils doivent fournir pour réussir leurs études? Même s'il est important aussi de se rencontrer dans des moments informels, comment faire en sorte que les étudiants sachent mieux aborder leurs études? Et enfin, que peuvent faire les universités d'une manière générale pour améliorer la réussite étudiante? Alors, si on regarde ces différents aspects, on peut constater en même temps la multiplication des services numériques, des contenus numériques, des plateformes pédagogiques d'apprentissage, etc., une certaine généralisation de l'usage du numérique en éducation. Conjointement avec cette généralisation du numérique, les technologies liées au big data, et c'est cette double émergence concomitante a permis l'émergence des learning analytics. Alors je cite ici un très très court extrait que j'ai traduit librement, qui vient d'un rapport publié par le département américain de l'éducation en 2012 et qui dit « Les systèmes d'apprentissage en ligne ont la capacité de capturer les comportements des apprenants pour fournir à une variété d'acteurs des retours permettant d'améliorer l'enseignement, l'apprentissage et la prise de décision éducative. » Alors, tout cela nous amène directement au Learning Analytics, dont on va beaucoup parler et dont des définitions vont être au travers des exposés de cette journée donnée. Je vais en poser une parce que c'est celle qui a été donnée par Long et Siemens en 2011, tout au début de la conférence LAC sur Learning Analytics and Knowledge, et qui dit que les Learning Analytics concernent la mesure, la collecte, l'analyse et le traitement de données sur les apprenants et leur contexte, dans le but de comprendre et d'optimiser l'apprentissage et les environnements dans lesquels il se produit. À partir de cette définition, voici un bref synthèse en regroupant selon les quatre dimensions que vous pouvez trouver dans Châtie 2014, avec quatre grands blocs à ce quatre grands aspects, points d'entrée. La première question, c'est celle du quoi, quelles données le système collecte, gère et analyse. Deuxième, c'est la question du qui est la cible de cette analyse. La troisième est le pourquoi, dans quel but le système analyse les données collectées. Et enfin, c'est la question du comment le système analyse les données collectées, quels sont les outils et les approches. Alors, si l'on prend chacune de ces questions pour le quoi, eh bien, on va travailler à partir de données collectées, à partir des actions explicites ou implicites des étudiants qui sont collectées partout où elles sont collectables. Cela amène un certain nombre d'aspects organisationnels et technologiques qui vont être abordés au cours notamment de deux exposés. Le premier dans la session 1 sur l'intégration des learning analytics dans la nouvelle génération de systèmes d'information longitudinaux qui sera le troisième exposé de cette session. Et dans la session 3 sur learning analytics and interoperability. Se pose également un certain nombre d'aspects juridiques et de questions éthiques, en particulier qui est propriétaire des informations sur les étudiants, l'anonymisation des données est-elle suffisante, et bien d'autres aspects qui seront abordés au cours de la session 3 par une juriste spécialiste de droit privé sur une intervention Learning Analytics pour un encadrement éthique et juridique de ces nouveaux projets. Sur la question du qui, les cibles sont nombreuses. On peut citer notamment les apprenants, bien sûr, les enseignants, évidemment, et tuteurs de toutes sortes, les responsables pédagogiques, mais également les institutions. Dans la question du pourquoi, je n'en ai énuméré que quelques-uns, et au travers des exemples qui vous seront donnés dans cette journée, vous pourrez voir des cas pratiques et opérationnels de Learning Analytics. Mais en particulier, on peut alerter un enseignant sur les difficultés d'un apprenant particulier ou d'une classe ou d'un groupe d'apprenants dans une classe. On peut détecter les décrocheurs, ces étudiants qui risquent d'abandonner avant que cet abandon n'ait lieu, de manière à pouvoir intervenir. Donc comment les détecter quand il est encore temps pour agir et leur permettre de réussir. Comment estimer quelles interventions pédagogiques ont ou pourraient avoir le plus d'impact, en particulier en fonction des contextes. Comment recommander des ressources de formation en lien avec le comportement de l'apprenant, son historique, son background et ses cibles. Comment prédire l'abandon dans les MOOC en particulier ou modéliser des comportements d'apprenants. À cette question des comment, je vais reprendre un schéma qui a été donné par Gartner où on voit quatre grandes étapes avec des analyses descriptives, de diagnostic, des analyses prédictives et des analyses prescriptives. Si les analyses descriptives sont maintenant répandues, les analyses de diagnostic sont aussi de plus en plus courantes, mais ce qui est le plus motivant, c'est d'avoir des analyses prédictives, donc toutes celles qui, en amont de l'événement, vont nous permettre d'être conscients de ce qui va arriver et d'agir. Et les analyses prescriptives, eh bien, quand on veut se fixer une cible, comment peut-on faire en sorte que cela apparaisse ? Pour répondre à ces questions, nous allons avoir différentes interventions, en particulier autour d'environnement, qui vont permettre de mettre en œuvre ces fameux outils de Learning Analytics et des outils. Dans la session 2, avec un exposé sur les Open Learning Analytics et a Community Platform for Open Analytics, avec la solution proposée par Apereo, enfin l'initiative plutôt proposée par Apereo. Et dans la session 4, nous aurons une présentation sur le tableau de bord pédagogique, le projet interuniversitaire Board Z. Mais autour de ça, il apparaît aussi dans un certain nombre de pays une organisation nationale en réseau ou en consortium qui favorise le développement de ces learning analytics au sein des établissements d'enseignement supérieur. Pour témoigner de ça, nous aurons deux exposés. Le premier dans la session 2 sur l'action menée par JISC au Royaume-Uni et sur la JISC Open Architecture for Learning Analytics. Et dans la session 3, sur ce qui est fait dans Pays-Bas avec National Approach for Learning Analytics. Je voudrais terminer, ou presque terminer, ma présentation en rappelant quelques points d'attention. Comment faire en particulier que les Learning Analytics deviennent un véritable outil au service de la formation? Et je pense que c'est une des questions que nous aurons à nous poser tout au long des présentations qui nous rassemblent aujourd'hui. Mais aussi, comment mobiliser les enseignants pour qu'ils s'emparent des Learning Analytics et que ça ne soit pas un outil à côté du reste, mais véritablement un outil au service d'une meilleure pédagogie. On peut se poser aussi des questions sur l'impact d'indiquer à un enseignant les étudiants susceptibles d'échouer et comment on peut faire cela. Comment sensibiliser les apprenants pour qu'ils se sentent aussi concernés par les Learning Analytics? Et quel impact ça a sur un étudiant, un retour éventuel qui peut lui être fait? Et bien sûr, toutes les questions liées à la vie privée. Toutes ces questions sont notamment abordées au travers de projets de recherche et dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres dans le numérique, l'appui sur la recherche est fondamental. Et nous aurons donc une session, la session 4, qui va être dédiée à recherche et développement, avec un premier exposé sur les tendances de la recherche en Learning Analytics au travers de la conférence LEAG 2015 qui a eu lieu à Poughkeepsie cette année. Nous aurons la présentation d'un projet qui a été retenu à l'ANR 2014 qui s'appelle Hubble, qui se propose d'aller vers un observatoire pour la construction et le partage de traces massives d'e-learning, de leur processus d'analyse et de leur contexte d'usage. Tout n'est pas dit dans le titre, mais presque. Et enfin, une présentation dans le projet PIA Éducation Périclès sur la recommandation de ressources éducatives libres dans différents environnements. Déjà, des résultats prometteurs, je cite ici Giuseppe Abamonte de la Commission européenne qui se déclare d'accord, et je cite, avec le fait que there were considerable opportunities in learning analytics, citing improvement of 30% in educational achievement in United States universities, adopting these techniques. Et pour nous conforter dans le fait qu'effectivement, les learning analytics sont un enjeu important pour l'enseignement supérieur, nous aurons une présentation sur learning analytics in the United States, surveying the landscape, dans la première session, juste après mon introduction. Juste pour conclure, et je ne résiste pas à utiliser cette image que je pense, en tout cas, les parents connaissent. Et le défi ici pour nous n'est pas de retrouver Charlie, mais d'identifier un étudiant à risque parmi tous les étudiants qui sont ici en masse à l'université. C'est un premier défi. Ce deuxième défi est de comment le transformer en un étudiant qui réussit. Et enfin, pourquoi le faire pour un seul étudiant et ne pas le généraliser à l'ensemble des étudiants en adaptant la pédagogie et en la personnalisant? Pour conclure, avant de céder la parole au premier orateur, je voudrais dire que les Learning Analytics sont certes une discipline émergente qui a à peu près 5 ou 6 ans maintenant, que c'est un domaine de recherche actif et j'espère que les exposés que vous allez voir dans cette session 4 vous en convaincront, qu'il y a derrière ça une communauté française qui se structure et cette structuration est un élément aussi clé du succès de ces projets. Et que les Learning Analytics sont un outil puissant au service d'un enseignement de qualité et que cela pourra être montré au travers d'expériences réussies et d'opérationnalisation effective qui ont été menées notamment dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas.